Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser qui achève sa semaine consacrée aux restes humains, les restes humains ferments d'humanité, avec Arnaud Esqueret, sociologue. Notre rapport aux restes humains a beaucoup évolué ces dernières décennies. Tout se passe comme s'ils étaient plus investis par nous. Le respect qui leur est dû, par exemple, est désormais sanctionné par la loi et ils doivent absolument demeurer dans l'espace public. Leur qualité de vestige d'une vie l'emporte désormais sur tout autre, notamment sur leur appartenance muséale. Je vous propose donc de terminer cette série en tentant de comprendre le lien mystérieux entre les morts et les vivants, cette communauté morte vivante, avec Arnaud Esqueret, qui est sociologue et qui a signé un ouvrage intitulé « Les os, les cendres et l'état ». C'est publié chez Fayard. Bonsoir Arnaud Esqueret.
Bonsoir Antoine Garapon.
Alors, vous avez signé ce livre dont je parlais à l'instant, et on voit qu'il y a un intérêt nouveau.
C'est venu de recherche, les restes humains?
C'est-à-dire que les restes humains, ou plutôt le rapport à la mort, avait été en sciences humaines et sociales, comme on dit, c'est-à-dire aussi avec les historiens, un thème qui avait été étudié dans les années 60-70 sous l'idée d'un déni de la mort. Oui. Et il y avait ce notamment Philippe Ariès, grand historien,
oui, grand,
qui a un livre fondateur sur ce sujet, mais qui a beaucoup défendu une thèse qui avait été formulée auparavant par un Anglais qui s'appelle Gorer, Geoffrey Gorer, sur ce déni de la mort, avec l'idée, si vous voulez, que la modernité serait marquée par le fait que on supporterait moins la mort, ou que les vivants en fait supporteraient moins la mort. Thèse qui a eu un grand succès, qui s'est répandue à tel point que nombre on pourrait dire presque le sens commun en fait, oui, fait que très souvent on a cette idée en tête.
Mais ça vous convainc pas, vous?
Et je dois dire en fait que je ne suis pas tout à fait convaincu. Et je pense d'une part que de profonds changements se sont opérés par rapport aux restes humains en Europe, hein, et en particulier en France, que j'ai plus particulièrement étudié, justement depuis ces années 70, et en particulier depuis en fait les années 90-2000, et que, si vous voulez, en quelque sorte, on pourrait dire conjointement à ces changements qui avaient lieu par rapport au reste humain, les sciences humaines et sociales ont elles-mêmes en fait repris cette question, cette problématique.
À nouveau frais,
et l'ont en quelque sorte éclaté en se penchant notamment sur la question ce que deviennent concrètement ou ce qu'on fait des restes humains. Je dirais que les travaux se sont énormément développé depuis une dizaine d'années dans diverses directions, que ce soit en sociologie, en histoire ou en anthropologie, suivent de plus près, si vous voulez, ou de manière plus précise, différentes questions. Donc la question des restes humains, et puis en anthropologie, très souvent, ce qui a été retravaillé ces dernières années, sont plutôt la question de se souvenir d'eux, ou comment les morts, si vous voulez, sont parmi les vivants. Et donc la question, par exemple, des fantômes a été évoquée, etc.
Oui, c'est ça. Mais alors là, je crois que peut-être que nous avons été victimes d'une confusion entre le mourir, la mort comme un événement personnel, comme un événement qui attend tous les vivants, et les morts comme un événement échu. C'est différent comme traitement.
Il y a effectivement le mourir, et avec cette caractéristique très importante et qui a alimenté aussi cette question du déni de la mort, qui fait qu'on meurt davantage à l'hôpital qu'à son domicile. Ce mouvement, en fait, qui s'est opéré dans la deuxième partie du XXe siècle et qui est commun aux différents États européens. Et puis, il y a les morts et la question des restes humains et donc la question de qu'est-ce qu'on en fait. Enfin, troisième élément, si vous voulez, il y a la question de se souvenir d'eux, c'est-à-dire quels sont les supports à partir desquels on se souvient des morts.
Alors, est-ce que le numérique n'a rien changé? Parce que je crois aujourd'hui, il y a cette nouvelle manière de se souvenir ou cette manière de se perpétuer. Avec le numérique, avec par exemple, je pense à Arnaud Esquerret, aux techniques, aux deepfakes aujourd'hui, où on peut faire parler les morts sur des sujets bon, qui troublent quand même la barrière de la cessation de la vie.
Le numérique change la manière dont on peut se souvenir des morts, mais je dois dire il faut le réinscrire, si vous voulez, dans un mouvement un peu plus ample et un peu plus lointain, au sens où, si vous voulez, on a la question de se souvenir des morts en allant sur le lieu de sépulture, ou en tout cas le lieu où les morts sont, où les restes humains en tout cas sont situés, je vais dire, et puis il y a la question de qu'est-ce qu'il y a comme support pour se souvenir des morts. Or, ce support, il peut être un support qui peut être, par exemple, des cheveux ou un objet ayant appartenu aux morts. Et puis après, il y a eu la photographie, mais qui était dans un premier temps, si vous voulez, dans une diffusion restreinte, puis qui s'est multipliée dans la deuxième partie du XXe siècle. Et il est vrai, je pense, que si vous voulez se souvenir des morts via le numérique, c'est-à-dire via tout un tas de dispositifs qui permettent en fait de bien de voir en vidéo ou bien d'entendre en fait les morts, fait que le rapport aux morts, au souvenir des morts, se modifie considérablement.
Arnaud Esquerret, est-ce que vous seriez d'accord pour dire que, d'une manière générale, la tendance, c'est à une beaucoup plus grande attention, à un beaucoup plus grand respect des morts et des restes humains? Et je vous interrogerai ensuite, d'ailleurs, sur ce pluriel des restes humains.
Je pense que il y a depuis les années 90-2000 une attention et effectivement une, si vous voulez, un souci et du point de vue en tout cas du pouvoir politique et donc de l'État et donc aussi que ça se traduit à travers le droit. Un souci de respecter davantage le corps mort et qui prend des formes qui sont, par exemple, dans les années 90, l'arrivée de la condamnation de la profanation, qui n'était pas condamnée en tant que telle auparavant.
C'est extraordinaire. Et d'ailleurs, des faits qui vont se multiplier, comme si la loi appelait aussi des nouvelles pratiques expressives.
La profanation étant effectivement un acte expressif, oui. Puisqu'on peut profaner un monument aux morts, par exemple, dans lequel il n'y a pas de reste humain, simplement en faisant une inscription où quelqu'un considère que c'est une profanation et qui s'oppose, si vous voulez, à ce qui était condamné auparavant, qui était un dommage qui était causé, par exemple, à une tombe ou concassée et qui était, qui pouvait être une... Voilà. Et donc ça, si vous voulez, il y a la question de la profanation. Et puis, il y a une loi au début des années 2000 sur laquelle on reviendra peut-être, enfin dans les années 2000, qui, en fait, renforce effectivement, d'une certaine manière, le respect dû au corps humain. Et ce mouvement, en fait, peut être étendu encore si l'on considère la question de la place des restes humains dans les collections des musées.
Ça, on va aborder ces questions, mais je me demande, Arnaud Esquerret, est-ce que c'est pas aussi... Le fait que nous avons connu une très grande période de paix, et donc la guerre n'est plus le grand organisateur des rapports entre l'État et les corps, parce que pour la guerre 14-18, ça a été absolument massif. Il a fallu gérer des millions de... un million au moins de dépouilles humaines, des millions si on compte les dépouilles étrangères, ce qui d'ailleurs donne lieu à... tout un tas de réflexions sur cette manière de redistinguer les nationaux et les autres après le champ de bataille. Est-ce que c'est pas la paix, tout simplement, qui pose de nouveaux problèmes de gestion, le mot est terrible, des restes humains?
Alors, très probablement, la modification en fait du rapport aux conflits armés, je dirais, et aux morts liées aux conflits armés, pour des États comme la France ou la plupart des États européens, puisqu'on oublie en fait les guerres en ex-Yougoslavie dans lesquelles il y a eu des fosses avec des fosses communes et des déplacements,
et des
etc.
Des déplacements de fosses communes, tout
voilà.
À fait.
On voit bien qu'en fait ces questions peuvent se reposer, malheureusement, y compris aux frontières de.
Oui, mais ce ne sont plus les nationaux.
Enfin, c'est-à-dire, on va peut-être pas aller sur le sujet des guerres en ex-Yougoslavie, c'est pas si ancien. Mais il est vrai que pour l'État français ou pour la France, cette question en fait du rapport au reste humain est probablement effectivement liée au fait que quand il y a des conflits armés, ça engage, ça peut engager des vies humaines, mais ça n'engage pas des vies humaines de citoyens français de manière aussi importante que ça a pu l'être quand il y avait des guerres comme la Seconde Guerre mondiale.
Et d'ailleurs, Jean-Marc Dreyfus remarque, m'apprend d'ailleurs, ce que je ne savais pas, que parce qu'il y a eu une mission française, d'ailleurs très très active, de recherche des cadavres déportés en Allemagne. Ça a occupé plusieurs années. Et il observe d'ailleurs ce qu'on peut constater, c'est que la réflexion sur la Deuxième Guerre mondiale a évité cette confrontation à la matérialité des corps et des dépouilles et des restes humains. C'est une préoccupation qui est venue tardivement par rapport au retour du thème de la Shoah.
Oui, je pense qu'il y a sans doute un décalage qui peut sans doute s'observer, ou en tout cas le problème de savoir comment on retrouve les corps dans quand il y a eu des crimes de masse est une question qui se pose évidemment bien sûr à propos de la Seconde Guerre mondiale, et puis évidemment dans d'autres cas qu'on pourrait évoquer, que ça soit en Espagne ou que ça soit en Argentine ou que ça soit dans d'autres
qu'on a vu cette semaine, parce que c'est justement un des grands théâtres dans lesquels les restes humains sont l'occasion d'un réamorçage de la politique, d'une recherche de la vérité. Mais restons sur cette situation française de long état de paix et de la loi de 2008, dans laquelle le législateur, on a l'impression qu'il cherche à contrôler cette pratique massive de l'incinération, donc des cendres qui est tout à fait nouvelle dans une terre catholique comme la France. Et il faut savoir, il faut arrêter, il faut stopper la circulation des cendres, il faut les assigner quelque part, Arnaud Esqueret.
Oui, mais Antoine Garapon, il faut rappeler d'abord que longtemps, la crémation, d'abord, c'est un mot qui ne date que du 19e siècle, et la crémation n'a été autorisée qu'à la toute fin du 19e siècle en France, après une loi qui était une loi de 1887 sur les pratiques funéraires.
Et qui va avec cette grande vague de libéralisation des grandes lois libérales de la France.
Et qui, en fait, si vous voulez, était en quelque sorte la suite d'une problématique, enfin, ou d'une question qui avait été soulevée pendant la Révolution française, puisque pendant la Révolution, il y a eu beaucoup de débats, en fait, sur que fait-on, qui dispose des restes humains ou des corps morts, et cette question, elle s'est posée, en particulier, si vous voulez, contre l'Église. C'est-à-dire contre l'Église catholique qui disposait des corps. Donc, alors, il y avait beaucoup de possibilités qui étaient envisagées, mais l'une d'entre elles était effectivement dans l'idée d'un retour à l'Antiquité, de brûler les corps. Donc, alors, à la fin du 19e, toujours contre l'Église, puisque le pape, à ce moment-là, en 1886, condamne la pratique de la crémation, et donc en 87, il y a la loi française qui va permettre d'autoriser la crémation. Mais si vous voulez, pendant presque un siècle en France, et dans un certain nombre de pays en Europe, c'est différents pays en Europe, pendant plusieurs décennies, la crémation reste extrêmement marginale. C'est moins de 1%.
Sauf en Angleterre.
Alors, il y a des pays, en fait, comme l'Angleterre ou la Suisse, où la crémation était interdite au 19e, et puis elle se développe progressivement à partir de la moitié, vers le milieu du siècle, elle se développe progressivement, et puis la France suit avec un retard, si vous voulez, en quelque sorte, à partir des années 70-80. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'en 76, il y a un décret qui permet, toujours de manière libérale, à chacun, un décret pris à l'époque par Simone Veil, qui permet à chacun d'emporter avec soi les cendres. Mais comme c'est une pratique qui est très marginale à l'époque, on peut dire que...
Ça pose pas gros problème dans le public.
En tout cas, la question n'est pas, si vous voulez, problématisée, d'autant plus qu'à l'époque, c'est chacun dispose de son corps, y compris des corps morts, si vous voulez, en quelque sorte. Mais, donc en 2008, quand la loi qui est sur les pratiques funéraires est votée, si vous voulez, la situation est extrêmement différente, puisque à ce moment-là, la crémation, c'est environ plus de 30% dans les pratiques funéraires. Aujourd'hui, c'est 37% à peu près.
Oui, hein. Donc c'est quand même c'est massif. Quand vous expliquez, Arnaud Esqueré, cette reprise en main par l'État, on est en 2008, on est dans un moment où disposer de son corps continue au combien dans les débats bioéthiques d'être un thème majeur, mais on sent que pour la mort, quelque chose de particulier s'est passé.
Je pense, si vous voulez, que dans les années 2000, et même, je dirais, un petit peu avant, à partir des années 90, ce qui se joue d'un point de vue politique sur des discours lié à ce qu'on dirait être, par exemple, l'identité nationale ou la question du nationalisme, et qui, en fait, repose sur quelque chose qui est un lien entre les vivants et les morts attachés à une terre, à un ensemble territorial. Et c'est souvent formulé, si vous voulez, de manière politique autour des questions de l'immigration, de l'identité nationale, etc. Mais le ciment, en fait, de ce type de discours est un discours qui met en jeu les morts et les vivants par rapport à cette terre. Et au fond, je pense, si vous voulez, que ce qui se redéfinit d'un point de vue juridique dans les années 90-2000 et de manière de plus en plus marquée, et si vous voulez, de manière extrêmement partagée, c'est-à-dire pas seulement on va trouver des gens qui vont partager cette idée aussi bien à droite qu'à gauche. C'est pense ça. Que en fait, si vous voulez, la différence se fait avec par rapport à des gens qui sont, on va dire, d'inspiration plus libérale au sens de liberté publique, pas au sens d'un libéralisme économique évidemment, et qui sont davantage sensibles à ce type de discours. Et donc il y a une reconfiguration qui se fait et qui va en fait en quelque sorte lier davantage les morts et les vivants par rapport à un territoire, et notamment en faisant en sorte que les morts soient dans un espace public et non pas dans un espace privé, et soient liés au sol.
Alors, on a vu ça toute cette semaine, finalement, qu'il s'agisse des migrants, qu'il s'agisse de la Shoah, qu'il s'agisse du monde hispano-américain, qu'il s'agisse même des morts dans la rue. À chaque fois, la mort convoque quelque chose de plus profond qu'est ce que vous appelez la communauté morte-vivante. C'est-à-dire que, à travers les restes humains, c'est une nouvelle communauté politique, parfois d'ailleurs parcellaire, s'agissant des migrants, qui se reconstitue. On a besoin d'assigner à nos morts, j'ai bien à nos morts, une place, à les identifier, pas uniquement pour éviter qu'ils circulent et donc qu'on ne les maîtrise plus, ce qui est toujours très inquiétant, mais aussi pour refonder, pour réanimer une communauté politique, Arnaud Esqueré.
Effectivement, Antoine Garapon, les morts ont un rôle dans les discours justifiant ou une communauté politique. Donc la caisse, si vous voulez, y compris d'ailleurs, si vous voulez, dans une alternative, c'est-à-dire que par exemple les anarchistes ont aussi vont proposer une autre conception des morts, c'est-à-dire dans lesquelles en fait il faut au contraire en quelque sorte oublier les morts, ou et donc le fait de lier les morts à la terre et aux vivants en leur donnant un respect, en faisant en sorte que par exemple les cendres soient l'équivalent soient traitées comme un cadavre et qu'on ne puisse pas par exemple les donner à différentes personnes, qu'on puisse pas les transformer.
Il y avait aussi énormément de conflits familiaux autour des cendres. C'était une des raisons de la loi 2008, c'est qu'il y avait quand même beaucoup de conflits familiaux et de savoir qui détiendrait les cendres des ascendants était.
Antoine Garapon, je suis pas sûr qu'il y ait eu beaucoup de conflits familiaux, mais en tout cas
les juges les ressentaient comme
en
ça.
En tout cas, les parlementaires qui ont légiféré ont mis en avant le fait qu'il y avait des conflits familiaux possibles par rapport au devenir des cendres, pour justifier le fait qu'il fallait les regrouper ensemble.
Arnaud Esqueré, est-ce que vous accepteriez finalement ce parallèle entre le monde des vivants et le monde des morts dans la possible circulation aujourd'hui des morts? C'est-à-dire qu'on a l'impression que avec les cendres, avec la crémation, Mais on pourra continuer d'ailleurs la métaphore avec cette dissociation des corps avec des différents organes, etc. On a l'impression que il y a une possibilité de circulation, il y a une mobilité des morts beaucoup plus grande que lorsqu'ils sont dans un cimetière.
Il y a eu une mobilité possible des morts sous forme de cendres en France à partir du décret de 1976 jusqu'à la loi de 2008 qui était, on peut dire, une mobilité, une liberté en fait de circulation complète. À partir de la loi de 2008, et donc si vous voulez, on n'a aucune idée de ce qu'ont pu devenir les cendres des personnes décédées, sauf évidemment les proches qui s'en sont qui en disposaient. Mais à partir de la loi de 2008, précisément, en fait, il y a un encadrement qui limite cette circulation.
Vous avez étudié, Arnaud Esqueret, la transmission, parce que une pratique existe depuis maintenant 50 ans. Bon, les enfants se partagent les cendres recueillent les cendres de leurs parents, mais les petits-enfants, mes arrière-petits-enfants, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que c'est pas un bien un peu encombrant, les cendres des ancêtres?
Mais écoutez, c'est une question qui se pose pour les restes humains en général, parce que si vous voulez, les cadavres qui sont dans des tombes, la question se pose en fait des concessions. Les concessions ont des durées limitées, justement, un des soucis des personnes qui choisissent la crémation plutôt que l'inhumation est de ne pas faire porter le poids d'entretenir une tombe à leurs enfants, à leurs petits-enfants ou à leurs proches, parce que il faut aussi voir que la famille telle qu'elle existe dans les années 2000-2010 n'est pas celle des années 50. C'est une famille souvent recomposée avec un taux de divorce plus important quand il y a des mariages, parce qu'il n'y a pas forcément de mariage. Des gens qui habitent dans des endroits qui ne sont pas l'endroit où vivent les parents, et donc où la question en fait d'aller entretenir une tombe se pose de manière plus importante. Donc l'essor de la crémation est en fait, je dirais, au contraire lié à une volonté de faire en sorte que ça soit moins contraignant de s'occuper de cendres que d'un tombeau.
Thank you.
France Culture, Matière à penser, Antoine Garapon.
Matière à penser, toujours avec Arnaud Esqueret, qui a choisi de nous faire entendre la danse macabre de Saint-Saëns, opus 40, en l'occurrence sur la baguette de Daniel Barenboim, avec l'orchestre de Paris et au violon Louben Yordanov. Alors, Arnaud Esqueret, une attention nouvelle aux restes humains, mais cette attention se porte également sur des restes humains très très anciens. Je pense à l'archéologie. Il y a des conflits autour de l'archéologie et des restes biologiques, donc des restes humains. Il y a des conflits dans les musées pour la restitution de restes humains qui appartiennent à une culture, à une communauté parfois très éloignée et qui rappellent les temps douloureux de la colonisation. Hein. On a tous en tête la Vénus Hottentote. Là aussi, il y a une modification profonde et là encore, on a l'impression que le statut des restes humains est indissociable des évolutions des rapports politiques.
Tout à fait. Alors, si vous voulez, les restes humains, il y en a un certain nombre dans les collections des musées français. Ils viennent de plusieurs. Ils ont plusieurs sources d'une certaine manière, puisque l'une des sources principales est en fait une source médicale, puisqu'au XIXe siècle, en fait, on constituait dans les hôpitaux des collections en fait de restes humains pour des raisons d'anatomie, enfin
d'enseignement médical.
Donc il y avait à Paris par exemple, il y avait notamment le musée Orfila et puis le musée Dupuytren pour l'anatomie pathologique. Donc ça, c'est une partie des restes humains. Donc la question et donc ils sont anonymes. Et puis effectivement, il y a des restes humains qui sont liés à des collections anthropologiques qui sont liés à l'histoire coloniale de la France très souvent, dont l'histoire en fait pour chacun d'entre eux n'est pas nécessairement on va dire évidente, c'est-à-dire il n'y a pas une traçabilité si vous voulez pour chacun des restes humains qui est nécessairement précise, bien que tout un travail soit fait par rapport à ça. Et puis, si vous voulez, effectivement, c'est-à-dire dans le mouvement postcolonial qui s'est développé, et notamment avec la question qui se pose à ce moment-là de savoir si on peut, ou si les États qui ont été des États coloniaux peuvent restituer souvent des objets sacrés de leur collection et parmi ceux-là des restes humains. La question va se poser d'un point de vue politique de la restitution d'un certain nombre de restes humains, parmi lesquels effectivement la Vénus Hottentote.
Ma question, c'est à partir de quel moment des restes humains deviennent possibles objets de contemplation par le public et donc à quel moment Arnaud Esqueret il change de statut. Je pense par exemple à la visite des catacombes, tout simplement, par exemple, qui sont extrêmement populaires, comme vous le savez, aujourd'hui à Paris. Est-ce qu'on a l'impression de regarder des restes humains ou est-ce que c'est pas quelque chose d'un petit peu qui est devenu un peu folklorique? On associe plus ces restes humains à des vies humaines, à des destins. Quelque chose auquel on puisse s'identifier.
Antoine Garapon, je ne suis pas tout à fait de votre avis. C'est-à-dire, si vous êtes, si vous vous promenez dans les catacombes et que vous voyez l'amoncellement de crânes et d'ossements, ou si par exemple vous allez dans des chapelles telles qu'elles peuvent exister. Par exemple, je pense à une chapelle qui est au Portugal à Évora et qui est faite en fait des murs entiers
d'ossements. Aussi, il y a ça, oui.
Vous êtes saisi en fait par les ossements qui sont exposés. Alors la question, cela étant dit, c'est est-ce qu'on peut qu'est-ce qu'on fait quand on expose des restes humains? Est-ce que en fait les exposer, c'est encore les respecter? Dans les catacombes, il y a bien des phrases qui font que les restes humains doivent être contemplés avec respect. La question en fait, fait de savoir si ils sont exposés de telle sorte qu'on les respecte ou pas, s'est posé notamment à propos d'une exposition qui a eu lieu en 2009 et qui s'appelait Our Body, dans lesquels en fait des restes humains, alors anatomiques plastifiés, on va dire, étaient exposés. Et en fait, le fait qu'il fallait payer pour les voir à un prix qui était plus élevé que manifestement que l'entrée dans un musée a été considéré comme une exploitation commerciale et donc par les juges comme manquant de respect aux morts, tout ça avec la loi de 2008. Mais si vous allez au musée d'ailleurs super de l'école vétérinaire de Maison Alfort, il y a des écorchés de Fragonard qui y sont exposés et ce sont bien des restes humains qui sont exposés là mais qui sont un petit peu plus anciens.
Arnaud Esquerel, Paul Ricœur a apporté une réponse à cette question. Il disait, dans le fond, nous sommes la vue, la contemplation des restes humains nous est pénible et nous endette, c'est son expression qui sera contestée ensuite, nous endette tant qu'il y a un lien historique avec eux. Nous sommes insensibles au sac de Constantinople, mais en revanche, la guerre 14, la Shoah, tout cela nous affecte parce que on a l'impression d'une proximité, d'un endettement et donc d'une vie toujours possible avec ces morts.
Mais, si vous voulez, je pense, je n'irai pas à ce niveau de généralité, pour une raison que, si vous voulez, les effets que produisent aussi bien les images que les restes humains sur les personnes diffèrent en fonction des personnes ou des individus. On peut pas généraliser. Et il y a des enfants qui vont voir des restes humains et qui vont, par exemple, les prendre un peu en riant, d'autres qui vont les prendre en étant effrayés. Et je pense, si vous voulez, ça peut être atténué aussi, ça peut être des réactions qui peuvent être s'exprimer de manière plus ou moins atténuée avec des adultes. Donc je serais plus réservé que vous, Antoine Garapon, sur ce rapport qui serait systématique, de la même manière, si vous voulez, que pour les images, en fait, les réactions peuvent différer.
C'est dans un entretien très intéressant que vous avez conduit avec Marcel De Tienne, Arnaud Esquerep, c'est peut-être d'ailleurs le dernier qu'il a donné, vous avez abordé cette question du poids relatif des morts pour montrer que l'attention que chaque société, que chaque culture accorde au reste humain, à ses morts, varie considérablement. Et Marcel De Tienne parle de la Grèce où il a cette expression que les morts sont légers pour les Grecs, ils ne servent point à enraciner. Et que ce serait le christianisme finalement qui aurait généré, qui aurait engendré cette attention particulière pour les morts.
Marcel Détienne, qui était un immense helléniste, faisait, comme il disait, de l'anthropologie avec les Grecs, c'est-à-dire avait une démarche comparatiste au sens où, par la comparaison, il invitait à réfléchir à différents types de rapports possibles, et là, en l'occurrence, de différents types de rapports possibles aux morts. C'est-à-dire, en quelque sorte, si vous voulez, pour nous faire comprendre que cette idée d'une communauté des morts et des vivants telle qu'elle a l'air d'être évidente pour nous au début du XXIe siècle, en fait, est une construction qui n'a pas tant d'évidence que ça. Et il était venu notamment à cette idée à cause de la question de l'identité nationale qui était extrêmement discutée et qui reste discutée au début des années 2000 et qu'il avait un peu, si vous voulez, exprimé ces idées dans un petit livre qui s'appelle L'identité nationale, une énigme. Et donc j'avais été le voir pour l'interroger plus particulièrement sur ce sujet. Et effectivement, si vous voulez, une des choses ou un des arguments qu'il mettait en avant, c'est que les Grecs auxquels on se réfère régulièrement,
comme le creuset de notre culture occidentale,
En fait, avaient un rapport aux morts et aux restes humains complètement différent d'une autre, et notamment, effectivement, il disait les morts sont légers parce que, si vous voulez, il n'y avait pas nécessairement de la nécessité d'aller se recueillir sur une sépulture avec des corps qui sont inhumés, etc. En disant cela, il proposait, si vous voulez, une idée qu'on va retrouver ailleurs, par exemple chez des nomades, qu'on va retrouver en anthropologie, où, si vous voulez, le rapport aux morts est complètement différent. Ça ne veut pas dire qu'on ne se souvient pas des morts, mais simplement, il n'y a pas nécessité, par exemple, de savoir précisément où ils sont enterrés, d'aller rendre hommage
Et vous rappelez dans cet entretien cette phrase de Michelet, alors, qui montre la distance entre nous et les Grecs, pour le coup, parce que Michelet défend cette idée que c'est le devoir même des historiens que d'accueillir les morts, et de les ressusciter, afin, je cite, qu'ils vivent maintenant avec nous, qui nous sentons leurs patients, leurs amis, car ainsi se fait une famille, une cité commune entre les vivants et les morts. Et c'est dans un article qui s'appelle « Des justices de l'histoire ». Alors ça, c'est très fort en France.
Si vous voulez, effectivement, Marcel Détienne avait pointé cet article de Michelet qui date de 1873, hein, d'ailleurs l'année, ou à peu près en même temps que la danse macabre de Camille Saint-Saëns, ce qu'on a entendu, dans lequel Michelet met en avant cette idée d'une communauté entre les vivants et les morts. Et pour Détienne, si vous voulez, ça amorce un mouvement qui, donnant une fonction ou un rôle, si vous voulez, à cette communauté entre les vivants et les morts, dont il tire une origine qui est une origine chrétienne. Et donc qui va se retrouver parmi les historiens, mais pas seulement parmi des historiens, puisqu'il dessine, si vous voulez, une circulation de cette idée qui part de Michelet, en passant d'une part par Barrès, qui insiste sur le rapport à la terre, et puis ensuite de manière plus lointaine, mais de manière importante, dans un livre de Brodel, sur l'identité de la France.
Dans lequel on peut lire cette phrase que vous rappelez, qui est quand même là aussi très forte. La France, dit Brodel, c'est moi vivant avec les morts qui me font moi vivant.
Oui. Et si vous voulez, c'est par rapport à cette idée, Antoine Garapon, que Marcel Détienne réagissait. C'est pour ça, en fait, qu'il est allé chercher chez les Grecs une autre manière de concevoir le rapport aux morts, parce que ce qu'il sentait derrière cette idée développée par Brodel, qui ancrait les morts dans la terre, c'était en fait une dimension politique, qui était une dimension politique pouvant être réutilisé par des mouvements.
C'est quand même certain, Arnaud Esquerret, si on voit l'histoire de les tombes, les monuments aux morts, mais je pense aussi aux églises, aux reliques. C'est-à-dire que les restes humains, notamment la relique, a été un organisateur spatial. Dans la France médiévale et même dans la France carolingienne, les reliques ont une importance absolument majeure pour on célèbre sur le tombeau du saint pour essayer de récupérer quelque chose de sa sainteté. Donc c'est bien, il y a bien quand même un lien, alors qui est très profond, qui n'est peut-être pas universel, mais ce lien où l'espace et s'organise, on le voit toujours d'ailleurs avec nos morts, le cimetière, ce que vous disiez sur l'État, Arnaud Esquerret, l'État qui décide de la place des morts, ce que rappelle également cet article sur de Jean-Marc Dreyfus, où il dit quand les autorités françaises localisaient les déportés qui étaient morts en Allemagne, il fallait les mettre dans le carré français, qui est en situation d'extraterritorialité. C'était un morceau de France.
Oui, Antoine Garapon, vous rappelez la question des reliques, mais voyez-vous, précisément, tout ce que nous venons de dire, c'est-à-dire en déployant à la fois cette question des cendres, cette question du cimetière qui ne date que du XIIe siècle, le cimetière chrétien, et cette question des restes humains aussi bien dans l'espace public, dans les collections muséales, dans l'espace privé, montre en fait la diversité possible du devenir des restes humains et la diversité des rapports possibles avec les restes humains. En ce qui concerne les reliques catholiques ou orthodoxes, donc principalement les reliques catholiques en France, si vous voulez, ce qui est frappant, on parlait tout à l'heure de l'exposition des restes humains, c'est que c'est tout à fait une logique d'exposition des restes humains de la même manière qu'on les a dans les musées. Le rapprochement est rarement fait. Et pourtant, si vous voulez, c'est d'abord l'exposition des restes humains et d'abord celle des reliques.
Oui, c'est ça.
Et une autre dimension qu'on a un peu oubliée, si vous voulez, c'est que les reliques, eh bien, c'est un même corps qui est découpé en de multiples morceaux. J'ai pris l'exemple de Saint-Vincent de Paul, qui est dans 50 églises sous forme de 97 reliques. Oui. Et à chaque fois qu'on sortait le corps, on coupait des petits morceaux et puis on le exposait encore davantage.
Quelque chose qui serait puni par la loi aujourd'hui comme une atteinte à la dignité du cadavre.
Absolument. Donc oui. Si vous voulez, je crois vraiment qu'il faut ce qui nous semble des évidences, un tout petit peu d'histoire
tout à fait.
Nous permet de
vous savez d'ailleurs que
mettre en...
Arnaud Esquerès a une importance très grande dans l'histoire de la justice parce que les juges, quand naît le juge moderne, il doit juger en regardant une relique pour lui rappeler toujours ce lien avec les morts, pour lui rappeler que le jugement dernier est ce qui lui arrivera s'il ne juge pas bien. Mais alors revenons à la situation contemporaine pour clore cet entretien et cette semaine avec vous, Arnaud Esquerret. Qu'est-ce que veut dire aujourd'hui, qu'est-ce que signifie cette nouvelle communauté morte-vivante, comme vous l'appelez, de la France de ce début de 21e siècle ?
Écoutez, je pense que cette communauté morte-vivante qui lie en fait les vivants et les morts par rapport à un territoire, comme si en fait ils avaient toujours été là en fait dans ce territoire, ça dit quelque chose en fait de l'importance qu'a pris la question du nationalisme ou de l'identité nationale, comme on l'a dit, et donc aussi des morts qui ne peuvent pas faire partie de cette communauté morte vivante, c'est-à-dire des morts par exemple qui sont laissés comme les migrants dont vous avez parlé en Méditerranée, mais aussi les morts qu'on restitue, c'est-à-dire qu'est-ce que ça veut dire de restituer des restes humains, ça veut dire en fait ce sont des restes humains qui n'appartiennent pas à cette communauté. Et donc quand on défend en creux l'idée de restituer des restes humains, ça veut dire aussi en fait qu'on défend l'idée qu'il y a des restes humains qui sont les nôtres. Et je pense que cette idée d'une communauté morte-vivante liée à un territoire, elle est en fait le soubassement à l'intérieur duquel s'inscrivent un certain nombre de discours qui sont des discours politiques.
Et c'est tout l'enjeu d'ailleurs des restes humains, des immigrés et du choix dont on dit qu'il est de plus en plus fait de rester en France.
Oui, ça peut être ça. Mais si vous voulez, je pense aussi que par rapport à cette idée, il y a un certain nombre de il faut voir tous les discours qui sont autres en fait, et notamment les discours, par exemple, précisément de la Révolution française, du début des années 1870 ou de 68 ou d'après mai 68 et des années 70, qui proposaient en fait une plus grande variété, si vous voulez, en quelque sorte, de rapport au reste humain.
Comme si la communauté morte-vivante, Arnaud Esquerret, vous l'écrivez d'ailleurs à la fin de votre livre, avait quelque chose à voir aussi avec le désir de refaire des totalités qui soient différentes, telles que la classe ou le peuple. Ces notions s'essoufflent, et bien on recherche quelque chose grâce aux morts.
Absolument, c'est une volonté de totaliser et qui en fait de totaliser et de conduire à une communauté probablement en opposition à quelque chose qui serait davantage des libertés individuelles.
Merci beaucoup Arnaud Esquerret.
Merci Antoine Garapon.
Matière à penser, Arnaud Esquerret, Guillaume Ledu, Sandrine Chaperon, Justine Wilde, Catherine Denet, Anne-Pascale Desvignes, Antoine Garapon. Et la semaine prochaine, je céderai mon siège à Dominique Rousset. À bientôt.